Je m'entretiens maintenant donc avec le biologiste Jean-François Rail, le biologiste qui est responsable de la population d'oiseaux marins au Service canadien de la faune. Et voyons notre population de poussins sur notre population de poussins provenant des fous de bassin sur l'île Bonaventure. Donc, se porte assez bien, semble-t-il. Bonjour.
Bon matin.
Alors donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que cette année a été une très bonne année, même une augmentation assez impressionnante du taux de reproduction, on peut le dire comme ça, des fous de bassin?
Oui, je pense qu'on peut dire que cette année, ça a été une année assez encourageante et positive pour les fous de bassin.
Parce qu'il faut dire, depuis les dernières années, on a eu une baisse drastique en 2012 et ça remontait tranquillement. Alors parlons un peu des dernières années qui ont été difficiles.
Si on regarde au niveau du succès reproducteur, durant toute la période où la population allait bien, augmentait, donc on avait un succès reproducteur qui se maintenait au-dessus de 70 %. Pour simplifier, 70 %, ça voudrait dire que à la fin de la saison, il y a des poussins qui sont. Parce que le fou de bassin pond un œuf par nid. Et donc, à la fin de la saison, il y avait un poussin prêt à s'envoler dans environ 70 % des nids dans les bonnes années. Puis, après 2009, là, nos études ont vu que ça a plongé là, à 22 % en 2011 comme succès de reproduction, jusqu'à 8 % en 2012. Là, la plupart des nids étaient déserts en fin de saison. Puis, depuis ce temps-là, ça a remonté, mais tranquillement. Puis là, cette année, là, on parle plutôt de au-dessus de 60 % comme succès de reproduction, donc on est presque aux valeurs normales.
Intéressant. L'année passée, on était à combien par rapport à l'année passée?
L'année passée, on était plutôt autour de 43 % de succès de reproduction.
Alors voilà pour l'historique. Donc cette année, une bonne année, et puis on se rapproche de la cible des 70 %. Quelle est la cible? Est-ce qu'il y en a une, justement, une cible à atteindre là, pour assurer donc la survie de l'espèce?
Selon un modèle là, mathématique qu'on peut faire, on calcule que ça prendrait environ 67 % comme succès de reproduction pour maintenir la colonie, le nombre d'adultes nicheurs là, stable, maintenir la population stable. Mm-hmm. Donc, 67 %. Donc, évidemment, on ne vise pas toujours à ce que l'espèce augmente indéfiniment, mais on voudrait qu'elle se maintienne. Donc, ça serait autour de cette valeur-là.
Donc, on s'y approche. Qu'est-ce qui s'est passé donc pour qu'on ait une chute si drastique? On fait souvent de lien avec la nourriture. Donc, la nourriture a disparu et là, elle est revenue?
Oui, c'est une bonne question. C'est ça qu'on essaie de comprendre. On étudie un peu le régime alimentaire des fous de bassin chaque année. Et puis, on fait diverses études aussi, notamment à l'aide de GPS. Donc, c'est-à-dire que on peut poser des GPS, dans ce cas-ci, si on les attache après quelques plumes de la queue des fous de bassin. Puis, on laisse les fous de bassin aller, continuer à faire ce qu'ils ont à faire, aller pêcher leurs poissons, nourrir leurs petits durant la saison de reproduction. Puis après ça, on récupère ces dispositifs-là pour récupérer les données. Donc, ça nous montre un peu où vont s'alimenter les fous de bassin. Puis ce qu'on a constaté, parce qu'on a fait la première fois ce type d'expérience-là en 2003, donc alors que la population se portait encore très bien. Puis on a refait ça, ce type d'études-là, plus récemment, pour constater que les fous de bassin allaient de plus en plus loin, en particulier là, dans les années où ça allait très mal, là, dans les
2012.
Années 2011, 2012, etc. Mm-hmm. Donc, on voit que sur nos graphiques, les fous de bassin vont plus loin s'alimenter, puis vont peut-être dans des endroits moins habituels, parce qu'on est habitué de les voir pêcher, surtout fréquenter le sud du Golfe pour capturer du maquereau. Puis là, on voyait que de plus en plus, les fous de bassin utilisaient la côte nord et on voyait des fous de bassin partir de l'île Bonaventure, c'est un exemple, là, et se diriger sur la côte nord, puis longer la côte nord, la basse côte nord, puis même certains individus se rendaient jusqu'au Labrador. Donc, vous voyez que ça fait un long voyage pour nourrir le poussin là, qui est en train d'élever.
Oui, et c'est là qu'on a eu un taux de mortalité des poussins qui s'est finalement traduit par 8 % seulement de taux de survie. Alors, parce que les parents quittaient trop longtemps les nids. Alors, ces poussins-là étaient laissés à l'abandon.
Ben effectivement, ça a été la pire année en 2012 où là c'était évident, on voyait tous les jeunes qui fréquentaient la colonie pouvaient voir des jeunes qui étaient en train de mourir de faim sur les nids. Habituellement, les jeunes sont toujours, il y a toujours un des deux parents qui est toujours avec le jeune durant l'élevage. Puis là, on voyait que les jeunes étaient abandonnés parce qu'à un moment donné, le deuxième parent pouvait plus attendre que l'autre revienne parti si longtemps à la pêche, donc partait lui aussi. Puis là, ça laissait les jeunes sans protection contre la chaleur, le froid, et puis les jeunes mouraient de faim aussi.
Cette année, pour avoir vu de visu, les jeunes, ils étaient assez gras.
Ça veut dire,
on voyait bien qu'ils étaient même plus gros que les parents, je pense, à la fin. Là. C'est assez impressionnant. Comment on fait pour calculer, vous, quand vous parlez du taux de reproduction? Donc, votre calcul, vous le faites comment?
Bien, on suit un échantillon de nids. C'est-à-dire que sur les 50 000 nids à l'île Bonaventure, par exemple, on en suit peut-être autour de 400. Ça, c'est le suivi du Service canadien de la faune. Donc, on prend des photos de certains secteurs de la colonie où on numérote les nids sur les photos. Et puis, on suit les nids. Donc, on revient plusieurs fois durant la saison pour voir dans chaque nid, est-ce qu'il y a eu un œuf qui a été pondu? Est-ce que l'œuf a éclos plus tard? Puis est-ce que le jeune qui est là va survivre et donc va être là encore vivant jusqu'à la mi-septembre? Puis donc à la mi-septembre, on peut dire que si les jeunes ont survécu jusque-là, ils sont assez forts pour quitter la colonie. Ils commencent à quitter là, vers la fin septembre la colonie. Donc c'est comme ça qu'on calcule le succès de reproduction.
Et cette année, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on augmente aussi rapidement? Là, on passe de 44 à 60 et plus de 60 % de taux de reproduction. Donc, c'est vraiment une question de nourriture donc pour les parents.
Oui, bien exactement. C'est ça qu'on pense qui s'est passé. À peu près tous les Gaspésiens pourront vous dire que cette année, il y a eu beaucoup de caplan qui a roulé autour des plages. Donc, le caplan était très abondant en début de saison, donc en mai, juin, et même jusqu'à assez tard en juillet. Donc, il y avait du caplan dans peu profond d'eau, puis en abondance. Ce qui fait qu'on voyait beaucoup de fous de bassin pêchés très près des côtes, plongés à répétition, vraiment des grosses agrégations de fous de bassin qui plongeaient. Donc, la nourriture était très abondante en début de saison, ce qui a donné un très bon, un bon coup de pouce là, pour avoir un bon début de nidification.
Et ça s'est poursuivi après avec le maquereau.
Ben c'est ça. C'est parce que le caplan, évidemment, reste pas toute la saison disponible pour les fous de bassin. À un certain moment donné, le caplan descend, une fois qu'il a fini de se reproduire, de rouler, si on veut, sur les plages, là, il disparaît plus en profondeur. Donc, il devient inaccessible pour les fous de bassin, qui eux autres plongent, peuvent pas plonger ils plongent pas plus que 20 mètres dans l'eau. Donc, c'est là que le maquereau prend le relais, le maquereau et le hareng. Cette année, on n'a pratiquement pas vu de hareng dans les régurgitations, mais par contre, le maquereau, ça a été un autre point positif. Le maquereau se fait assez rare aussi dans le golfe, mais cette année, on a vu dans les régurgitations beaucoup de petits maquereaux, ce qu'on ne voyait pas durant les peut-être 10-15 dernières années. Donc, c'est quelque chose d'encourageant. Donc, une fois le caplan disparu, les fous de bassin ont réussi à trouver suffisamment de maquereaux pour garder leurs jeunes en santé jusqu'au départ.
Bon, et là, une question qui se pose, lorsqu'on parle du taux de reproduction, ça, ce sont les poussins qui ont réussi donc à survivre et à être prêts à partir. Est-ce que lorsque c'est le temps du départ, il y en a qui vont... je dirais, mal décollé, qui pourrait se blesser, se tuer en sautant de la falaise parce qu'on n'a pas encore appris à voler. Est-ce qu'on sait qu'on en perd en cours de route de ces petits-là?
C'est certain qu'on en perd. Mais par contre, c'est pas un aspect qui est très, très bien étudié puis qui est facile à étudier non plus. Ça prendrait des observateurs en bas de la falaise qui regardent chaque départ et qui regardent ce qui se passe. Mais je sais que pour moi, ce que j'ai souvent observé, c'est que les jeunes quittent Donc, ils sautent de la falaise. Là, ils font plus planer plutôt que battre des ailes. Donc, ils essaient un peu de battre des ailes, mais ils planent pendant. Puis, ils perdent graduellement de l'altitude. Puis, ils atterrissent sur l'eau peut-être quelques centaines de mètres plus loin. Par contre, ils savent pas voler encore à ce moment-là. Puis, souvent, ils sont un petit peu pesants aussi pour voler. Donc, ça leur prend quelques jours, là, sinon une couple de semaines. Pour exercer leur muscle des ailes, puis être capable de voler. Mais c'est ça, c'est quoi le taux de survie des jeunes au moment où ils sautent de la falaise? Ça, c'est pas très bien connu. Je ne saurais pas m'avancer à ce niveau-là.
OK. En terminant, donc, lorsque les poussins quittent l'île Bonaventure, qu'est-ce qui se passe avec eux?
Bien, ils vont migrer graduellement vers le sud. On va en retrouver un peu partout le long de la côte est américaine, surtout vers le sud-est de la côte est, sud-est des États-Unis, donc jusqu'autour de la péninsule de la Floride et puis jusque dans le golfe du Mexique. Et puis durant la première année, même parfois les 2 premières années de leur vie, vont pas vraiment remonter vers le nord en été, donc vers le golfe du Saint-Laurent, par exemple. Donc, peuvent rester dans un peu l'aire d'hivernage de l'espèce. Puis, par la suite, vont commencer à remonter, donc à l'âge de 3, 4 ans, 5 ans, vont commencer à remonter, fréquenter un peu les colonies, regarder comment ça se passe, parfois même se pratiquer un petit peu, à essayer de défendre un territoire, construire un nid. Mais donc, l'oiseau se reproduit seulement à l'âge de 5 ou 6 ans.
OK, donc une période vraiment jeune, de poussin à jeune oiseau jusqu'à adulte, fou de bassin, c'est 5 ans. Bien, intéressant pour ce petit survol, on va le dire ainsi, hein? C'est très bien dit. Donc, de cette dernière année au niveau de la reproduction des poussins, des poussins, oui, de fou de bassin à l'île Bonaventure. Merci beaucoup d'avoir discuté avec nous, Jean-François Rail, biologiste au niveau de la population d'oiseaux marins pour le Service canadien de la faune. Merci.
Ça m'a fait plaisir.